Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue.
Oui.
C'est le lundi, le Kiosque Magazine de lundi. C'est une incursion au rayon de la culture et de la société du Kiosque Magazine.
Oh, une incursion.
Oui, c'est ça. Alors, nous avons feuilleté des magazines, évidemment.
Et quand on dit nous, c'est Roger Roy.
Et Serge Hamelin, qui est assis à ma droite.
Oui, celui qui dirige... à ma gauche, c'est Roger.
Eh, monsieur, un bon sens d'observation.
Ah, oh, ben, j'essaie.
En régie, en face de nous, là.
Dans... En face, oui, en oui, face. En face, bien enfin, en face. Un peu de billet.
Jean-Sébastien de la Liberté, que nous saluons.
Oui.
C'est lui qui va nous guider jusqu'à la fin de l'heure qui s'en vient. Et nous allons vous lire des articles extraits de Reader's Digest, de l'actualité.
De l'itinéraire, oui. Du bel âge. Protégez-vous.
Oh, on a un beau menu à vous proposer encore aujourd'hui, comme toujours. Alors, je commence par le grand dossier de l'actualité. Ça, c'est un peu déprimant, de ma fin.
Ah bon?
Le grand dossier de l'actualité de septembre, c'est la surdose médicale.
Ah.
Le texte est titré « Halte au surdiagnostic » par Valérie Borde. Examen superflu, dépistage hasardeux, traitement inutile. La médecine est rongée par un mal insidieux qui coûte les yeux de la tête et rend bien des gens malades. Elle en fait trop. Est-ce qu'on peut dompter la bête? Non. Chirurgien oncologue depuis 35 ans à Québec, le docteur Jacques Morin est inquiet des dernières études sur le dépistage précoce du cancer du sein par mammographie. Elles démontrent, ces études, qu'un grand nombre de femmes sont traitées pour rien. Le dépistage les conduit sur sa table d'opération alors que sans intervention, leur tumeur aurait spontanément régressé ou encore évolué tellement lentement qu'elle n'aurait pas eu d'effet sur leur santé. Alors il dit, affolé, certaines études ont repéré jusqu'à un tiers de surdiagnostics parmi les cancers du sein trouvés par dépistage. Ça voudrait dire que chaque jour, j'opère deux femmes pour rien avec tous les dangers et les souffrances que cela représente. C'est encore pire pour les cancers dits « in situ », qui ne font pas de métastases, dont un sur deux ne dégénère pas selon les responsables du Programme québécois de dépistage. Pourtant, quand on trouve une tumeur cancéreuse dans un sein, on ne se pose pas la question, on l'enlève. Le surdiagnostic est grave, insiste le médecin, car parmi les femmes soignées pour rien, certaines souffriront de complications chirurgicales ou des effets secondaires parfois sérieux de radiothérapie et des médicaments. Toutes vont subir le stress qu'occasionne l'annonce d'un cancer, passer des heures à l'hôpital et faire l'objet d'un suivi pendant des années. On va dépenser des sommes folles et leur empoisonner la vie pour les débarrasser d'un mal dont elles n'auraient jamais souffert. Dur, dur pour ceux qui ont prêté le serment d'Hippocrate. Sans compter que tout le temps mis à soigner ces personnes n'est pas consacré à celles qui devraient recevoir des soins urgents. L'an dernier, un premier congrès international sur le surdiagnostic s'est tenu au New Hampshire. Plus de 300 médecins et chercheurs y ont discuté des études récentes, levant peu à peu le voile sur l'ampleur et les conséquences de cette médecine qui en fait trop, à la fois pour repérer les maladies et pour les traiter. Le surdiagnostic a pris des proportions épidémiques, constatent les spécialistes. Il a englouti entre 158 et 226 milliards de dollars aux États-Unis en 2011. Au Québec, cela pourrait correspondre à 5 milliards de dollars dépensés chaque année pour des examens et traitements qui n'apportent rien, estime le docteur Laurent Marcoux, président de l'Association médicale du Québec, AMQ, qui regroupe 10 000 médecins. En avril dernier, l'Association médicale du Québec a lancé une grande offensive de sensibilisation à l'intention des médecins, mais aussi de la population sur le modèle d'une campagne menée aux États-Unis en 2012. L'objectif de choisir avec soin, c'est de dissiper l'impression que plus de soins signifie forcément de meilleurs soins, explique le docteur Marcoux. Du temps où les médecins n'avaient que leurs cinq sens et leurs connaissances pour poser un diagnostic, ils passaient à côté de bien des maladies. Ce n'est plus le cas. La manière de pratiquer a complètement changé depuis mes débuts il y a 40 ans, raconte le docteur Marcoux. Aujourd'hui, des milliers de tests de laboratoire, d'examens, d'imagerie et de guides de pratique clinique permettent de détecter la moindre bizarrerie, qu'elle s'accompagne ou non de symptômes. Tous ces outils ont fait faire de grands progrès à la médecine, mais ils ont aussi ouvert la porte au surdiagnostic. Au hasard du dépistage et des examens de routine, les médecins découvrent ainsi d'innombrables bobos en puissance. Ils analysent, surveillent de près et ont tendance à traiter sitôt qu'ils jugent le risque sérieux. Pourtant, même certains signes de maladie grave n'entraîneront jamais d'ennui. Dans la dernière décennie, des études de grande ampleur menées dans différents pays ont comparé entre eux les taux de mortalité et la survenue de maladies graves chez un grand nombre de personnes ayant reçu un diagnostic et été traitées, et chez d'autres dont ce n'était pas le cas. La conclusion? On détecte et on soigne beaucoup trop souvent des anomalies qui autrement n'auraient pas causé de problèmes de santé. On part du principe que s'il y a une grosse bosse dans un sein, c'est qu'il y en a eu une petite avant. Et que si on enlève la petite, la grosse n'arrivera pas. Mais toutes les petites bosses ne sont pas destinées à grossir, explique le docteur Fernand Turcotte, spécialiste en médecine préventive et professeur retraité de l'Université Laval. Il faut réhabiliter la noblesse de la non-intervention et de l'observation attentive, insiste Fernand Turcotte. Changeons de sujet, c'est avec le cancer de la prostate que l'on s'est aperçu qu'il suffisait parfois de chercher des anomalies pour en trouver et que les traiter de manière préventive pouvaient être graves. Dans les années 90, raconte le docteur Welsh, qui est l'auteur d'un livre, « Le surdiagnostic, rendre les gens malades pour la poursuite de la santé », donc ce docteur Welsh a constaté que la commercialisation du test sanguin de l'antigène prostatique spécifique, le fameux APS, a entraîné une hausse rapide du nombre de diagnostics de cancer de la prostate sans pour autant que la mortalité augmente. De 1995 à 2002, les trois quarts des Canadiens qui ont reçu ce diagnostic sont passés sous le bistouri. Les chercheurs cliniciens ont depuis revu leur copie. Ils ont réussi à différencier les cancers selon le danger qu'ils représentent et ont vu qu'on pouvait se contenter de surveiller une bonne partie d'entre eux. Beaucoup d'hommes meurent d'autre chose avant que leur cancer de la prostate se manifeste par de quelconques symptômes. Alors voilà, c'est un article, je vous en ai lu des extraits, l'article est beaucoup plus long, c'est dans l'actualité du mois de septembre sous la signature de Valérie Borde.
Eh bien, c'est Serge Amelin qui vous parle, et je vais vous lire un article écrit par Adil Boukind dans la revue L'Itinéraire. C'est la maison verte, la plus verte de Montréal. Saviez-vous d'abord qu'il y avait des maisons vertes?
Non, je n'ai pas remarqué.
Eh bien, voilà. Et il y a la maison la plus verte de Montréal.
Il n'y en, en a pas une à l'île du Prince-Édouard?
Ah oui, oui, mais à Montréal. À Montréal.
Bon, excusez.
Et c'est Sabine Carcenti qui habite là. C'est l'actrice montréalaise, connue pour ses rôles dans La Cité, Battlefield Earth et The Crow, Stairway to Heaven, qui est tout, on parle de la maison, sauf une maison comme les autres. De dehors, elle ressemble à une habitation moderne avec ses grandes fenêtres et ses formes carrées, mais de l'intérieur, c'est un petit paradis pour tous ceux qui ont la fibre écologiste. La maison est en voie d'obtention de son certificat platine LEED, Leader in Energy and Environment Design. Le programme LEED est un programme d'évaluation de projets de bâtiments durables et chaque bâtiment doit répondre à 19 critères en rapport avec l'empreinte écologique de celui-ci, matériaux utilisés, provenance de ces matériaux, consommation énergétique, etc., etc., 19. Le niveau platine est le plus haut niveau de distinction. Si, dans le cas de Mme Carcenti, celui-ci n'est pas obtenu, alors le niveau d'or sera attribué à la bâtisse. Il reste quelques petits détails à régler, comme poser un drain sous la laveuse. Une fois que l'on sera prêt, nous ferons faire une autre inspection. À la suite de cette dernière inspection, la certification serait accordée. Si c'est le cas, alors cette maison sera le premier bâtiment résidentiel à Montréal à obtenir une certificat LEED platine. Quand on entre dans cette maison, tout devient calme. Si calme que l'on se trouve à parler moins fort, même presque murmurer. La raison se cache dans les murs. Ceux-ci sont faits en chanvre et en chaux. Ces matériaux ont comme propriété d'être des isolants sonores. On n'entend aucun bruit du dehors. D'abord, parce que la maison est située sur la montagne, ça aide. Hein? Dans une rue calme, ça aide aussi. Aussi, parce qu'il n'y a pas, presque pas d'écho, malgré les grandes pièces du bâtiment. Une fois à l'intérieur, oubliez l'idée de vous servir de votre téléphone cellulaire parce que les ondes ne passent pas.
Ah, ben tiens.
Ou presque.
Tu parles d'une solution.
Cela est dû à trois raisons. Tout d'abord, le mur possède une peinture noire qui bloque les ondes magnétiques. À cela s'ajoutent des tissus spéciaux. Et enfin, les vitres possèdent une fine pellicule en fibre de carbone. Utiliser le Wi-Fi, n'y pensez même pas. Non. Tout est relié par câble, que ce soit Internet, la télévision ou même la souris et le clavier de l'ordinateur. Le Wi-Fi ou le Wi-Fi, c'est comme si on essayait de se coucher avec un système de son allumé, déplore-t-elle, c'est pas reposant. En marchant d'une pièce à l'autre, on sent une harmonie dans la décoration minimaliste. L'idée est que les proportions soient agréables à l'œil grâce au nombre d'or qui a été utilisé pour concevoir les meubles, ajoute l'actrice. Beaucoup de personnes viennent chez nous et disent qu'elles se sentent bien. Il est vrai qu'un sentiment d'apaisement nous prend après avoir passé quelques minutes entre les murs. La maison, d'ailleurs, sujette à une étude sur le bien-être menée par l'École de technologie supérieure. Les tests consistent à faire passer des questionnaires dans la maison de Mme Cartensi, puis dans la maison d'à côté, qui est une maison traditionnelle. L'activité cérébrale sera analysée via des capteurs durant ce temps. Les résultats n'ont pas encore été révélés. En plein milieu de la maison se trouve une cour à ciel ouvert, entouré par des vitres qui permettent de laisser entrer plus de lumière naturelle dans les pièces. Aucune porte ne peut bloquer cette entrée de lumière. Une fois passée la cour, une grande cuisine s'offre avec un balcon. La particularité de cette pièce est qu'en plus d'avoir des appareils à basse consommation, les meubles utilisent une colle n'émettant aucun gaz toxique. Les meubles sont la chose la plus nocive dans une nouvelle maison, souligne Mme Carcenti. Au premier étage se trouve la chambre et la salle de bain qui sont toutes deux liées. La baignoire, faite à base de résine végétale, permet d'éviter d'avoir des produits plastiques et d'entrer en contact avec des produits chimiques. Et aller plus loin. Cette maison qui a nécessité un an et demi de construction a été motivé par l'arrivée des enfants de Mme Carcenti. Au début, on voulait tout simplement un habitat sain, raconte-t-elle. Et avec des enfants, on s'est dit, pourquoi ne pas aller un petit peu plus loin? Bien qu'aucun membre de la famille ne souffre de problèmes de santé, cet habitat offre un moyen de prévention. À cela s'ajoute un style de vie sain. On essaie d'être cohérent, ironise-t-elle. Nous essayons de manger bio le plus possible et de manger moins de viande possible. Cela dit, nous ne sommes pas végétariens. L'idée de cette maison est venue du mari de l'actrice, directeur de la Fondation Ecologia. Ah, ça aide. Le but de celle-ci est de répandre le savoir sur les constructions écologiques. Alors voilà, on est un peu plus au courant sur la maison la plus verte de Montréal. Si vous voulez savoir la suite, vous consultez l'article écrit par Adil Boukine dans la revue Itinéraire de septembre.
L'été, le cœur sur la corde à linge et la tête
la table. J'ai passé l'été à regarder passer les avions au-dessus de Villeray. Et déjà dans le ciel, une fille déshabille Montréal. Et la ville avale le soleil. L'été à écouter chanter les oiseaux, les rideaux fermés. Et parmi les mal-aimés, étendus par milliers, tout nus sur les grandes pelouses. Et déjà dans le ciel, une fille déshabille Montréal. Et la ville avale le soleil.
L'été de Philippe Bay.
C'est beau.
Dans On a usurpé mon identité. Il faut surveiller de tous bords, de tous côtés. On est menacé dans tous les sens. Dans le Reader's Digest de septembre, Lisa Fitterman nous raconte les mésaventures de Charlie Kouassi, K-O-I-S-S-I, qui s'est fait voler son identité. Alors, ce Charlie Kouassi, 31 ans, est fou de joie. Ce 26 juillet 2008, il s'apprête à passer les contrôles de sécurité à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle pour se rendre en Côte d'Ivoire et assister au mariage d'un membre de sa famille. C'est la première fois qu'il va quitter la France. Ses parents sont arrivés d'Afrique avant sa naissance pour s'installer dans un minuscule appartement à Villiers-le-Bel, à environ 20 km au nord de Paris. Il vit toujours chez eux, d'où il se rend tous les jours à l'Institut Pasteur, à Paris. Il travaille comme assistant de recherche dans un laboratoire spécialisé dans les maladies tropicales transmises par les insectes. Alors, au contrôle de police, avant de prendre l'avion, il tend son passeport au fonctionnaire avec un grand sourire. Sans lever les yeux, ce fonctionnaire pianote sur le clavier de son ordinateur pendant de longues minutes. Soudain, des agents de police arrivent et arrêtent Charlie Kouassi. Motif, un mandat d'arrêt européen a été lancé contre lui. Émis à Karlsruhe, en Allemagne, l'avis mentionne qu'un Charlie Koumé Kanga Kouassi, né le 24 octobre 1976, en banlieue parisienne, exactement comme lui. Sidéré, il secoue la tête et dit « ça ne peut pas être moi », explique-t-il, « je n'ai jamais mis les pieds en Allemagne ». La police ne veut rien entendre, il est menotté puis conduit dans une cellule. Humilié, il serre les poings et retient ses larmes. Plus tard, au commissariat, Charlie Kouassi est interrogé à plusieurs reprises au sujet d'escroqueries qu'il aurait commises le vendredi 13 juin à Karlsruhe. Il secoue la tête. Un escroc, lui. Il est si fier de son travail stable à l'Institut. Impossible que je sois coupable, s'empresse-t-il de dire, confiant, je travaillais ce jour-là à Paris. L'Institut Pasteur est un site ultra sécurisé, accessible uniquement avec un laissez-passer électronique. Plusieurs heures plus tard, l'interrogatoire prend fin, mais Charlie Kwasi ne parvient pas à trouver le sommeil. Il est toujours en cellule. Il a le sentiment que les murs de la cellule se referment sur lui. Puis soudain, il comprend. Quelque 2 ans plus tôt, il a perdu sa carte d'identité. À l'époque, il était persuadé qu'il la retrouverait. L'inquiétude le gagne car, il le sait, on peut tout acheter sur le marché noir, y compris une identité. La carte comporte toutes les informations nécessaires ainsi qu'une photo facile à falsifier. « Et si quelqu'un se faisait passer pour moi, se dit-il. » Le lendemain matin, il est autorisé à appeler la directrice des ressources humaines de l'Institut Pasteur pour lui demander de confirmer ses propos. Elle établit un document attestant qu'il a bien travaillé au labo le 13 juin. Dans l'après-midi, il est libéré. Le problème est résolu, du moins, c'est ce qu'il croit. Il ne sait pas encore que le tribunal allemand va relancer le même mandat d'arrêt contre lui 2 mois plus tard, le 13 septembre. De nouveau, Charlie est arrêté, menotté et incarcéré. Là aussi, il passe une nuit blanche dans une cellule avant de comparaître le lendemain devant un tribunal. De nouveau, il est libéré grâce à l'attestation de la directrice des ressources humaines de l'Institut Pasteur. Cette fois, il demande un avocat. « Quelqu'un usurpe mon identité, commet des délits en mon nom et me laisse payer à sa place », explique-t-il, furieux, à l'avocat, commis d'office. « Il faut que ça cesse. » Pendant 14 mois, il ne se passe plus rien. Puis Charlie Kwasi commence à recevoir des appels et des lettres de relance d'un opérateur de téléphonie mobile qui lui réclame plusieurs milliers d'euros pour des factures impayées liées à un compte ouvert sur Internet 1 an plus tôt. Il sent la terreur parcourir son corps. Voilà que le cauchemar recommence. « J'ai l'impression de me battre contre de la fumée ou contre un fantôme », déclare-t-il à ses collègues effondrés. « Que faire ?» Le jeune homme tombe des nues en découvrant presque 50 pages mentionnant des appels locaux et internationaux pour un montant dépassant 6 000 euros, dont un grand nombre vers le Cameroun. Conscient qu'il ne sera jamais innocenté avant d'avoir retrouvé le coupable, Charlie Kwasi se souvient d'avoir vu à la télévision un spécialiste des usurpations d'identité, Christophe Naudin. Il se procure ses coordonnées, ce criminologue interpelle les responsables politiques, les incitant à prendre plus au sérieux les usurpations d'identité. Il le sait, les victimes mettent parfois des années avant de découvrir que la leur a été utilisée par un tiers. Aidé par ce criminologue et des amis, il arrive à s'approcher de celui qu'il soupçonne d'être l'usurpateur de son identité en Allemagne. Il se rend en Allemagne. Il porte plainte à la police en juin 2011. Mais la police lui dit « On ne peut rien faire. Le dossier ne comporte que des preuves circonstancielles, rien de plus. » Charlie quitte le commissariat, frustré et furieux. Mais il ne baisse pas les bras pour autant. En septembre 2012, il revient porter plainte en apportant la preuve que l'usurpateur supposé se trouve à Karlsruhe. Mais là encore, la police ne peut rien faire. Les preuves ne sont que circonstancielles et insuffisantes pour intervenir. Charlie Kwasi est démuni. Abattu, il se dit qu'à moins de conduire lui-même l'escroc supposé dans un commissariat, il ne peut rien faire. Et effectivement, il n'a rien pu faire. Et au mois de mars 2014, Charlie Kwasi a été convoqué au commissariat d'une commune de banlieue du nord de Paris après que 2 hommes d'origine africaine ont tenté d'acheter des meubles à l'aide de chèques volés en utilisant son identité. La police enquête car l'homme qui a volé les papiers de Charlie pourrait être de retour en France. Il dit « J'ai peur qu'il commette de nouveaux méfaits sous mon identité, mais j'ai l'espoir qu'un jour... » Il sera arrêté et traduit en justice, mais ça n'a pas l'air que ce soit demain la veille. Alors, usurpation d'identité, on vous donne dans le Reader's Digest ce qui doit vous alerter et ce qu'il faut faire en ce cas-là. Bon.
Bon. Bon, alors, allons dans une... vers un article un peu plus... un peu moins, mettons.
Oui.
Moi, je vais vous parler de peinture sans cauve.
Sans cauve.
Sans cauve. Sans C-O-V, cauve. C'est un article qui a été écrit par Rémi Leroux. Ça s'appelle « Prenez du galon ». L'allégation sans cauve n'est pas une garantie écolo à toute épreuve. Les produits qu'il affiche sont-ils tout de même de bons achats? Bon, alors on est dans la revue « Protégez-vous ». Qui n'a jamais eu mal de tête, d'étourdissement ou d'irritation au nez et à la gorge en repeignant ses armoires de cuisine ou la chambre du bébé? Les composantes et polluantes qui s'évaporent lorsque la peinture est exposée à l'air sont responsables de ces désagréments. Lors de notre premier test de peinture d'intérieur à base d'eau en 2009, aucune loi ne limitait l'utilisation de solvants et autres substances, sources de composés organiques volatiles. Parmi les 27 produits évalués, à peine 2 s'affichaient sans cauve. Les émissions de COV pour certaines formules de peinture courante pouvaient atteindre 500 grammes par litre, indique Mario Mathieu, directeur de formation chez PPG Industries, fabricant entre autres de la marque Sico. La situation a changé en 2010 avec l'entrée en vigueur du règlement limitant la concentration en cauve des revêtements architecturaux émis par Environnement Canada. Les peintures blanches d'intérieur ne renferment plus en moyenne que de 50 à 150 grammes de litres de cauve, selon milligrammes, selon les experts que nous avons consultés. Et seuls quelques produits domestiques dépassent les 250. Les peintures pour métal, les revêtements de finition pour plancher de béton et les apprêts de transition, le règlement permet des concentrations allant jusqu'à 800. Mais celles-ci ne se trouvent que dans les produits industriels et commerciaux, comme les revêtements de route. Bon. Certes, les peintures contiennent moins de cauve qu'avant l'entrée en vigueur du règlement, mais tout n'est pas parfait. La concentration en cauve inscrite sur l'étiquette est déterminée sans tenir compte du colorant ajouté à la teinte mère, base blanche, précise Danny Kingsbury, porte-parole d'Environnement Canada. Faut-il en conclure que l'allégation sans cauve ne veut rien dire? Voici une analyse de votre pot de peinture en 5 questions. Première question. Les cauves sont-ils vraiment dangereux? 2. À quoi servent les cauves? 3. Des peintures sans cauves, ça existe? 4. L'ajout de colorants a-t-il un impact important sur la teneur en cauve? Et 5. Avec ou sans cauve, quelle différence? Les cauves sont-ils vraiment dangereux? Il existe de nombreux cauves et certains sont plus nocifs que d'autres. Ceux d'origine naturelle, comme les terpènes, produits par la végétation, sont les plus courants. Toutefois, ce sont ceux aussi issus d'activités humaines, procédés industriels, transport, incinération, etc., qui causent des problèmes de qualité de l'air, selon Environnement Canada. Et parmi les cauves de cette catégorie, l'éthanol, le propane et l'acétone sont les plus connus. Le niveau de toxicité de la peinture dépend des produits chimiques qu'elle contient et de leur quantité, explique Sami Haddad, biochimiste et professeur au département de santé environnementale et santé au travail des SEST de l'Université de Montréal. Par exemple, le méthanol, un solvant, peut se concentrer dans le nerf optique et dans la rétine en cas de contact prolongé ou répété. Mais même une exposition occasionnelle à certains cauves peut vous faire ressentir de multiples effets. Et le plus anodin, une simple gêne causée par l'odeur. Et ces vapeurs peuvent également entraîner de l'irritation aux yeux, au nez, à la gorge ou à la peau, et même agir sur le système nerveux central en provoquant des étourdissements. Et les enfants en bas âge, les femmes enceintes et les personnes âgées ou malades sont plus susceptibles d'être incommodés que les adultes en santé. Le risque est moins grand dans une pièce vaste et bien aérée que dans un endroit restreint. C'est sûr, c'est sûr. Et une fois que vous n'êtes plus exposé aux cauves, les effets s'estompent après quelques minutes, précise Robert Tardif, professeur au département de la santé environnementale et santé au travail de l'Université de Montréal. L'impact des cauves sur l'environnement est plus grave que celui sur la santé humaine. interviennent dans le processus de formation de l'ozone, qui crée le smog en milieu urbain et participe au réchauffement climatique. L'évaporation des couves contenues dans les peintures vient s'ajouter aux couves produites par la combustion de diverses substances, comme les carburants automobiles, et contribue à la pollution atmosphérique. Ça, c'était pour le numéro 1. On va aller au 5 maintenant. On va terminer avec ça. Avec ou sans couve, quelle différence? Et pour des travaux courants, plafond, mur, porte, il n'y a aucune différence, estime le peintre en bâtiment Nicolas Desjardins. Bon. Les produits sans couve développés ces dernières années offrent d'excellentes performances équivalentes à ce qu'offraient auparavant les peintures classiques. Ils auront le même pouvoir couvrant et la même résistance à l'eau, à la moisissure ou au choc que les peintures ordinaires qui contiennent davantage de couve. Quelques bémols toutefois, une peinture sans couve d'entrée de gamme a tendance à marquer davantage en cas d'impact. Poursuit Nicolas Desjardins. Alors, si vous voulez repeindre vos armoires de cuisine utilisées au quotidien, il faudra dans ce cas-là choisir un produit sans couve haut de gamme. Le hic, ces peintures sont plus chères car elles sont produites à partir de résines de meilleure qualité et selon des procédés de fabrication plus complexes. Par ailleurs, tout en respectant les normes, certains produits spécifiques comme les apprêts et revêtements pour plancher de béton contiennent encore des taux importants de couve. Si les bases blanches de peinture sans couve ont longtemps été considérées comme des produits haut de gamme, entre 60 et 70 $ le gallon. Alors, on arrête là-dessus?
La couve.
Bonne peinture.
Pour approfondir un texte ou l'écouter intégralement, nous vous invitons à contacter les organismes Audiothèque et la bibliothèque numérique d'INCA. Pour plus d'informations ou pour trouver les coordonnées, visitez canalm.ca.
José María, por las pampas heladas, cardos y ortigas. A la huella, cortando campo. No hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire. Que estás creciendo, palomita asustada, grillo sin sueño. A la huella, José María, con un dios escondido, nadie sabía. Peregrinos, préstenme una tapera para mi niño. A la huella, soles y lunas, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Hay burrito del campo, hay buey barcino, que mi niño ya viene, háganle sitio. Un ranchito de quincha solo me ampara. Dos alientos amigos, la luna clara. A la huella, José María. Con un dios escondido, nadie sabía. Thank you.
C'était Florence K et sa Pérégrination.
C'est joli. C'est joli.
Dans l'actualité de septembre, on nous présente une entrevue de Nathalie Bondil. C'est la directrice générale du Musée des beaux-arts de Montréal. C'est Isabelle Grégoire qui présente à ses lecteurs un compte-rendu de la rencontre. Le titre de son article, c'est « L'art, c'est bon pour la santé », avec un beau point d'exclamation. Sous sa houlette, le Musée des beaux-arts de Montréal est devenu le seul au pays à accueillir plus d'un million de visiteurs annuellement. Alors, Nathalie Bondil a horreur de parler d'elle. Mais branchée-là sur les musées, et pas seulement sur le sien, elle devient intarissable. Loin d'être dépassée, selon elle, ces établissements ont plus que jamais leur raison d'être. D'abord parce qu'ils permettent de répondre aux grands questionnements de la société, mais aussi parce qu'ils font du bien. Aujourd'hui, ça tombe sous le sens, mais il y a un siècle, les gens n'étaient pas persuadés que faire du sport était bon pour la santé, dit-elle. La même chose est en train de se passer avec les œuvres d'art. Arrivée au Québec il y a 15 ans, cette méditerranéenne d'origine mène le Musée des beaux-arts de Montréal tambour battant depuis 2007. Avec ses expos novatrices et populaires, de l'art cubain au jazz de Miles Davis, en passant par les créations de l'artiste verrier américain Dale Chihuly, le Musée montréalais bat tous les records de fréquentation. C'est le seul musée canadien à entrer dans le club du million de visiteurs par année, soulignait le Toronto Star le 26 mai dernier. Le seul aussi à exporter autant d'expos à l'étranger. Celle sur le grand couturier Jean-Paul Gaultier, par exemple, a été présentée notamment à New York et Londres et arrivera à Melbourne cet automne, puis au Grand Palais à Paris en 2015. Le Musée des beaux-arts est un musée sans frontières, dit Nathalie Bondil, diplômée de l'École du Louvre et de l'École nationale du patrimoine. Elle a notamment été conservatrice du Musée national des monuments français à Paris et a travaillé chez Sotheby's à New York. Il est pluridisciplinaire, ce musée, extrêmement flexible et en interaction avec son milieu. La pluridisciplinarité sera d'ailleurs son maître mot dans son mandat de vice-présidente du Conseil des arts du Canada, qui a débuté en avril. Repousser les limites des territoires, des disciplines artistiques, c'est un enjeu très actuel et le Québec est très fort en la matière, dit-elle. Bien qu'hyper occupée, elle bosse 16 heures par jour, cette boulimique d'apprendre a accepté avec enthousiasme sa nouvelle mission, ça permet de continuer de porter la voix du Québec dans le concert des provinces. Car l'art, cette vraie gourmande en mange, au propre comme au figuré. Grâce à elle, des œuvres de la collection permanente, Jean-Paul Riopelle, Marcel Ferron, Jean-Paul Lemieux, Pablo Picasso, sont désormais servies, entre guillemets, au Café des beaux-arts, le restaurant du musée. À savourer des yeux, nous l'avons rencontré à son bureau, dit Isabelle Grégoire, question qu'on lui a posée. « Vous qui pensiez ne passer que quelques années à Montréal, vous y voilà depuis 15 ans. Est-ce que vous êtes heureuse? » Elle répondrait « J'adore Montréal, je suis devenue citoyenne canadienne, mon mari et ma fille, adolescente aussi. Quand on choisit une citoyenneté, on y est d'autant plus attaché. Et puis, je crois beaucoup au travail et à l'engagement à long terme. Les musées, c'est du long terme? Oui, on a la chance de travailler pour l'éternité, dit-elle en riant. Bien sûr, il y a l'événementiel des expos, mais le but de l'établissement, c'est de collectionner, et cette collection-là nous inscrit dans le très long terme. Le Musée des beaux-arts de Montréal a 154 ans. Il y a eu bien des directeurs avant moi, il y en aura bien d'autres après. Nous sommes des passeurs. Question. En raison des nouvelles technologies, on parle de la mort du cinéma, du livre. Y aura-t-il encore des musées dans 100 ans? « Ah, mon Dieu, oui, » répond-elle. Dans le dossier que leur a consacré The Economist fin 2013, on apprend qu'on est passé de 23 000 à 56 000 musées en 20 ans dans le monde. Les musées se portent très bien. Je suis d'autant plus convaincu de leur pertinence que nous baignons dans une culture visuelle. Nous sommes aussi harcelés, manipulés par les images. Et les musées sont des lieux où l'on peut prendre du recul par rapport à cette influence. » Alors, plus directement, en rapport avec le titre, « L'art, c'est bon pour la santé », la question suivante lui est posée. Le Musée des beaux-arts de Montréal se lance dans l'art-thérapie. Qu'est-ce que c'est? Elle dit « L'art-thérapie m'intéresse beaucoup. Ce projet de recherche universitaire permettra à des personnes souffrant d'anorexie d'utiliser des œuvres d'art pour amorcer des discussions sur différents thèmes, identité, harmonie, enfance, et de participer ensuite à des ateliers de création artistique. Les participants seront encadrés par des experts en santé mentale, des spécialistes de l'art-thérapie de l'Université Concordia et des éducateurs du musée. On a d'autres projets à l'étude, notamment avec l'Institut de cardiologie de Montréal, pour évaluer l'effet des œuvres d'art sur le rythme cardiaque. Ce partenariat vise à établir un protocole médical de soins pour des patients ne pouvant prendre certains médicaments. » Alors, l'art, c'est aussi bon pour la santé, selon Nathalie Bondil, directrice générale du Musée des beaux-arts de Montréal. Elle a été interviewée par Isabelle Grégoire dans l'actualité du mois de septembre.
Personne de ses commentaires, voilés sous le couvert de traits humoristiques, se cachent les ulcères de l'angoisse chronique. Oh, Jean est un homme sans travail qui boucle les mois en vendant au détail de beaux petits sachets ou bien des comprimés contenant l'intégrale de la pharmacopée. Mais certains soirs, il se demande à quoi ça rime. Certains soirs, on le voit seul au fond du gym. Alors il pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Alors il pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Anne est une jolie maman qui soigne son corps et chérit ses enfants. Personne ne connaît l'étendue de son drame, ni les pensées qui rongent son petit cœur de femme. Son homme a pris la poudre d'escampette avec une gamine de 10 ans, sa cadette. Oh, Anne voudrait le faire payer, mais elle est incapable de toute méchanceté. Il est sans le sou et n'a rien à son nom, et il ne mérite quand même pas la prison. Certains soirs, elle se demande à quoi ça rime. Et certains soirs, on la voit seule au fond du gym. Alors elle pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Alors elle pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Je suis un chanteur populaire de plusieurs a vraiment tout pour plaire. Derrière ma façade de stoïque belâtre, je suis aussi solide qu'une statue de plâtre. Quand la nuit tombe et que mon esprit vagabonde, j'ai tenté si souvent peur de la fin du monde. Oh, oh. Je suis un chanteur populaire et je fais ce que je peux pour ne pas être amer. Lorsqu'il me faut passer par-dessus mes principes pour qu'on joue mes chansons ou mes vidéoclips. Mais certains soirs je me demande à quoi ça rime. Et certains soirs on me voit seul au fond du gym. Alors je pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Alors je pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. On a tous sur le cœur un altère et sur les épaules le poids de l'univers. Condamné à fournir constamment un effort pour ne pas devenir notre propre poids mort. Mais certains soirs on se demande à quoi ça rime. Et certains soirs on est tous seuls.
Oui,
c'était Jonathan Pinchot.
Oui, ben oui. Avez-vous votre voyage?
Mon voyage. Avez-vous,
si vous avez votre voyage, vous pouvez partir en voyage. Oui. Alors, et Jacqueline Simoneau nous en parle.
Ah oui?
Elle dit, écoutez, 8 erreurs à ne pas faire si vous partez en voyage.
Surveillez votre carte d'identité.
Oh là, arrêtez-vous. 1. Omettre d'appeler la société émettrice de sa carte de crédit. Ah oui? Imaginez. Ah, ça, je ne savais pas. Hein? En voyage à Paris, vous décidez de vous payer la traite dans les magasins jusqu'à ce qu'on vous avise que votre carte de crédit est bloquée. Pourtant, vous n'avez pas dépassé votre limite de crédit. Impossible. Oui. Hélas, non. Dans le but de contrer une possible fraude, les institutions financières n'hésitent pas à geler le compte de leurs clients lorsque les transactions portées sur leur carte leur semblent inhabituelles. Ah, ben oui, c'est vrai.
Non, c'est ça, ouais.
La solution pour prévenir cette situation cauchemardesque, avisez les émetteurs de toutes vos cartes de crédit que vous partez en voyage. Vérifiez également la date d'expiration de vos cartes et les crédits disponibles. Et munissez-vous de 2 cartes de crédit, histoire de ne pas être pris au dépourvu. Hein? Pas bête.
Tiens, c'est bon.
Maintenant, arriver sans réservation d'hôtel. Atterrir dans une ville étrangère sans réservation d'hôtel risque d'être toute une aventure. En effet, chercher un endroit où dormir alors que vous êtes fatigué et sous l'effet du décalage horaire peut être particulièrement angoissant et irritant. Vous serez sans doute tenté de choisir le premier hôtel aperçu qui ne correspondra pas nécessairement à vos goûts ni à votre budget. Et encore, faut-il qu'il y ait des chambres vacantes. Bref, pour éviter ce stress inutile, réservez au moins la première nuit. Ah ben oui. 3. Ne pas faire affaire avec une agence de voyage.
Ah.
Un voyage représente une grosse dépense, alors mettez toutes les chances de votre côté. Vous pouvez choisir Internet pour vous informer et préparer votre itinéraire. Mais pour finaliser le tout, avant de peser sur le piton, rien ne vaut l'expertise d'un agent de voyage, surtout s'il y a plusieurs éléments à gérer, tels les correspondances, les vols, les hôtels et la location de voiture, ou simplement si vous ne voyagez pas souvent. Il vous conseillera, entre autres, à propos des vaccins, du transport, de l'hébergement et des sites à voir. Il ciblera vos besoins et vos goûts pour vous éviter des erreurs. Alors donc, faites affaire avec une agence de voyage. 4. Ne pas se procurer un permis de conduire international. Alors, vous prévoyez louer une voiture lors de votre prochain voyage à l'étranger? Le permis de conduire international, PCI, sera alors un précieux allié, quelle que soit votre destination. Sachez qu'il n'est pas requis dans tous les pays, notamment en France et en Amérique du Nord, sauf en Géorgie. Mais même si un pays ne requiert pas de PCI, l'entreprise de location de voiture avec laquelle vous ferez affaire peut l'exiger.
Ah ben oui.
Et constitue une preuve que vous détenez un permis de conduire valide dans votre pays de résidence. Il s'avérera également fort pratique si vous faites arrêter pour une infraction au code de la route d'un pays par un agent qui ne comprend pas votre langue. Le PCI traduit votre permis de conduire en une dizaine de langues. 5. Ne pas informer ses proches de ses vols et de son itinéraire. Vous voyagerez plus en paix en sachant que s'il vous arrive un problème et que vous ne puissiez communiquer avec vos proches, ces derniers pourront remettre votre itinéraire au ministère des Affaires étrangères, entre autres, et activer les recherches. Il est également important que vos proches puissent vous joindre facilement en cas d'urgence. 5. On s'en va à 6 maintenant. Ne pas s'informer sur les frais d'itinérance. L'itinérance internationale permet aux clients d'un réseau sans fil de se connecter automatiquement à un réseau sans fil d'un autre pays. Des frais d'itinérance sont toutefois exigés, et ceux-ci s'appliquent à l'accès Internet, aux appels vocaux, aux messages textes, aux images et en fait à tout ce qui est reçu, téléchargé ou envoyé lorsque vous vous trouvez à l'extérieur de la zone de réseau couverte par votre plan, et ce, même au Canada. À retenir, les frais d'itinérance s'accumulent dès que votre cellulaire est allumé.
Oui.
Même si vous ne l'utilisez pas, ces données peuvent être émises, téléchargées ou reçues automatiquement. Bref, vous risquez de recevoir à votre retour de voyage une facture plutôt salée. L'idéal, c'est évidemment de voyager sans cellulaire. Mais si vous ne pouvez vous en passer, prenez certaines précautions avant votre départ et plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez notamment vous procurer un forfait voyage pour les appels interurbains. Ça va?
Mm-hmm.
Maintenant, voyager sans assurance voyage.
Oui.
Sans assurance, un voyage annulé, écourté ou prolongé, un problème de santé ou un accident à l'étranger pourrait vous coûter très cher. Une consultation et des soins aux urgences dans le Vermont peut engendrer des frais d'environ 2 000 $. Oui. Une hospitalisation de 3 jours aux soins intensifs en Floride, seulement 26 000. Alors, c'est mieux une petite assurance voyage à 5 $ par jour.
Oui.
Et pour terminer, en huitième, hein, laisser son passeport à l'hôtel. Passeport Canada recommande de garder son passeport sur soi en tout temps.
Uh-huh.
En cas de contrôle, vous devrez en effet présenter une pièce d'identité reconnue,
oui,
pas une photocopie. À cet effet, la ceinture porte-billets ou encore la pochette au cou est fort pratique pour transporter le passeport en sécurité sous les vêtements.
C'est ça.
Alors, je vous souhaite à tous et à moi un bon voyage.
On commence les brèves par un exercice de futurologie imaginé par le caricaturiste Côté. Alors, je vais vous demander, Serge, laquelle de ces inventions va bientôt voir le jour? Jusqu'où ira notre besoin de sécurité? Est-ce que nous aurons bientôt des rétroviseurs sur les bicyclettes stationnaires? Est-ce que nous aurons des coussins gonflables pour skieurs? C'est pas possible. Il y a des très belles caricatures qui accompagnent ces propos. Est-ce que nous aurons des détecteurs de fumée dans les niches? Pourquoi pas? Hein, ça serait beau. Ah, des clôtures autour des baignoires. Ça pourrait être commode. Hein? Ça, oui. Des sabots anti-berçants sur les chaises berçantes. Ah, celle-ci est extraordinaire. Le port obligatoire d'un casque avec des talons hauts. Ah, si vous portez des talons hauts, mesdames, il faudrait un casque. Casque pour les cyclistes. La dernière que je vous donne, est-ce que bientôt on portera un gilet de sauvetage pour arroser sa pelouse? C'est Côté qui imaginait ça.
Et c'est à moi?
Oui.
Alors, 3 trucs pour bien laver votre voiture. D'abord, ça prend de l'eau. Laver et rincer une partie du véhicule à la fois.
Là, il pourrait y avoir le port du gilet de sauvetage pour ça.
Oui. Afin que le savon ne sèche pas avant le rinçage et qu'il ne laisse pas de traces. 2, ne vous installez pas sous le soleil, cela accélère le séchage. Eh mon Dieu. Épongez l'eau de rinçage avec un chamois ou une serviette. Bon, il y a d'où Jésus aussi. Aux États-Unis, le mouvement chrétien Faith Driven Consumer, qui souhaite guider les croyants dans leurs achats, évalue si les positions des compagnies s'accordent avec celles de la Bible et de l'Église sur des questions comme l'avortement et le mariage homosexuel. L'organisme prend notamment en compte leurs dons de charité et leur appui à certaines causes. Et selon ces critères, Walmart, Toys R Us et Samsung seraient plus chrétiens qu'Apple, Gap ou Amazon.
Hey, on va le noter.
Notez ça.
Toujours dans l'actualité, l'aviation, danger téléguidé. Savez-vous, là, il y a un problème avec les drones. Aux États-Unis, depuis 2 ans, de 15 à 50 drones ont frôlé des avions commerciaux. Ce qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses, évidemment.
Ça n'aurait pas été drone?
Non, pas du tout. De ce côté-ci de la frontière, le ministère des Transports a ouvert 4 enquêtes depuis 2012 sur des incidents liés à des drones près d'un aéroport, dont un tout récent à Vancouver, lorsqu'un de ces appareils a été aperçu volant dans le corridor d'atterrissage des avions. Ben ça, c'est encore pire que les outardes. Afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent, Transport Canada étudie en ce moment les recommandations émises, entre autres, par le Centre d'excellence sur les drones à Alma. Celle-ci vise à ce que le cadre législatif canadien soit modifié de façon à inclure des dispositions touchant expressément l'utilisation des drones. On songe ainsi à demander aux fabricants de fournir dans les emballages des drones le numéro de téléphone ou l'adresse Internet de Transport Canada pour que les consommateurs puissent s'informer sur les règles à suivre. Déjà, les Canadiens qui utilisent un drone de plus de 35 kilos, et monsieur, ou un modèle réduit d'aéronef à des fins commerciales doivent d'abord obtenir un certificat d'autorisation auprès de Transport Canada.
Bon, et voulez-vous rouler écono et juste à temps pour les vacances d'été ou même après, un rappel des grands principes de l'éco-conduite pour économiser du carburant, maintenez si possible une vitesse constante, car en ville, 60 % de votre consommation d'essence est due aux accélérations. Ensuite, ralentissez. En réduisant votre vitesse de 10 km sur l'autoroute, vous économisez 10 % en carburant. 10 % quand même. Conservez un régime moteur raisonnable sous les 3000 tours minute. Plus un moteur tourne vite, plus il consomme. Si vous conduisez un véhicule à boîte de vitesse manuelle, changez de rapport le plus vite possible quand vous accélérez. Et ceci, c'est bon, arrêtez le moteur. Il est plus économique d'éteindre et de redémarrer que de laisser le moteur fonctionner pour rien pendant plus de 10 secondes. Ça veut dire que si on est sur une lumière rouge, on peut tout arrêter.
Ah oui, c'est vrai. Oh,
10 secondes. Et on repart. Et c'est reparti. Bon. Attendez, j'ai quelque chose. Ouais. Vous déménagez, le service québécois de changement d'adresse permet de transmettre, ça c'est bon, en une seule démarche, vos nouvelles coordonnées à ces 6 ministères et organismes. Revenu Québec, Régie des rentes du Québec, Régie de l'assurance maladie du Québec, Directeur général des élections et Société de l'assurance automobile du Québec.
Bon, alors moi j'ai une pleine page de place à la vie numérique. Aujourd'hui, on vit à l'ère numérique.
Hein, oui. Ça.
32 heures, c'est le temps que consacrent chaque semaine à Internet les jeunes de 18 à 24 ans. Les Québécois âgés de 55 à 64 ans passent moitié moins de temps, 15 heures en ligne. La moyenne hebdomadaire pour l'ensemble des Québécois est de 20,5 heures sur Internet.
Oui.
C'était le Kiosque Magazine. Que
vous savez qu'il nous reste 12 secondes. On peut parler.
Donc, nous allons les utiliser pour vous saluer très cordialement, chers auditeurs, et vous inviter à nous revenir la semaine prochaine. Ici Serge Blanc et Roger Roy. Nous vous disons donc...
Au revoir.